Et je propose que nous lisions dans la première épître aux Thessaloniciens. Je pense à ce passage du premier chapitre, mais avant, j'aimerais bien que nous ouvrons encore acte 17, s'il vous plaît. J'aimerais lire quelques versets de ce chapitre. Traversés Amphipolis et Apollonie, ils vinrent à Thessalonique, où était la synagogue des Juifs, et selon sa coutume, Paul entra vers eux, et pendant trois sabbats, il discourut avec eux d'après les Écritures, expliquant et exposant qu'il fallait que le Christ souffrît et qu'il ressuscita d'entre les morts, et disant que celui-ci, Jésus, que moi je vous annonce, c'est le Christ. Et quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, et une grande multitude des Grecs qui servaient Dieu, et des femmes de premier rang, en assez grand nombre. Mais les Juifs, pleins de jalousie, ayant pris quelques méchants hommes de la populace, ayant fait un amas de peuple, troublèrent la ville, et ayant assailli la maison de Jason, ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener au peuple. Mais ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé la terre habitée sont aussi venus ici, et Jason les a reçus chez lui, et ils contreviennent tous aux ordonnances de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. » Et la foule et les magistrats de la ville qui entendaient ces choses furent troublés. Et après avoir reçu caution de Jason et des autres, ils les relâchèrent. Nous lisons jusqu'à là, juste comme une petite introduction à ce que nous voulons lire dans cet épître de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. Nous avons bien compris et vu ici que les Thessaloniciens, en tout cas quelques-uns des Thessaloniciens de cette ville, avaient entendu l'évangile du Seigneur Jésus, que l'apôtre Paul était venu vers eux, et comme il avait l'habitude, il est allé dans la synagogue pour leur présenter l'évangile, pour leur présenter surtout un homme, pour leur présenter Jésus, le Christ. C'est très très beau de voir que vraiment alors le centre de la prédication que Paul faisait, c'était de Christ. D'ailleurs, chers amis, c'est toujours comme ça. Quand il y a une prédication où il n'y a pas Christ, ce n'est pas une prédication valable. Il est absolument nécessaire qu'il y ait toujours aussi la personne du Seigneur Jésus qui soit présentée d'une façon ou d'une autre façon selon l'Écriture qu'elle nous montre, qu'elle nous donne. Si nous prenons maintenant le premier chapitre de l'Épître aux Thessaloniciens, j'aime encore une fois bien sûr la lire. Et d'ailleurs la lecture de la parole est nécessaire. Quelquefois nous pensons à « c'est peut-être un peu trop ». Eh bien non, je crois que c'est très bien de lire la parole.
parce que la parole, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle. C'est l'Esprit de Dieu qui présente les pensées de Dieu. Et d'une façon absolument simple, c'est des saintes écritures. Je trouve très bien d'ailleurs qu'en français, la Bible est appelée la sainte écriture. En allemand, nous avons aussi ce mot-là, die Heilige Schrift. Oui, c'est la sainte écriture. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu lui-même qui parle. C'est l'Esprit de Dieu, donc c'est Dieu lui-même qui parle. Et c'est toujours important pour nous de lire directement ce que le Saint-Esprit dit. Bon, c'est pour cela que j'aimerais bien lire juste le premier chapitre. Ce n'est pas trop long, mais nous allons voir. Paul et Sylvain et Timothée à l'Assemblée des Thessaloniciens, en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Grâce et paix à vous. Nous rendons toujours grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous souvenant sans cesse de votre œuvre de foi, de votre travail d'amour et de votre patience d'espérance de notre Seigneur Jésus-Christ, devant notre Dieu et Père, sachant, frères aimés de Dieu, votre élection. Car notre évangile n'est pas venu à vous en parole seulement, mais aussi en puissance, et dans l'Esprit Saint, et dans une grande plénitude d'assurance, ainsi que vous savez que nous avons été parmi vous pour l'amour de vous. Et vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur Jésus, du Seigneur, ayant reçu la parole, l'accompagner de grandes tribulations avec la joie de l'Esprit Saint, de sorte que vous êtes devenus des modèles pour tous ceux qui croient dans la Macédoine et dans l'Achaïe. Vous dites l'Achaïe ou l'Achaïe?
L'Achaïe,
oui. Car la parole du Seigneur retentit de chez vous, non seulement dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais aussi en tout lieu, votre foi envers Dieu s'est répandue, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en rien dire. Car eux-mêmes racontent de nous quelle entrée nous avons eue auprès de vous et comment vous vous êtes tournés des idoles vers Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. Je pense que nous tous, nous avons déjà lu une fois cette épître aux Thessaloniciens. La première épître d'ailleurs que l'apôtre Paul a écrit, qui est contenue dans la parole. L'apôtre a été à Thessalonique, nous l'avons vu. Il a prêché l'évangile. Après, il a dû quitter la ville. Il est resté là à peu près 3 à 4 semaines, pas plus. 3 à 4 semaines. Et puis, il a vécu avec eux, ils l'ont vu, ils l'ont entendu et ils ont été amenés par l'apôtre, un instrument dans la main du Seigneur, au Seigneur Jésus lui-même. Et l'apôtre a dû quitter donc Thessalonique, est allé à Bérée, en connaît aussi son chemin jusqu'à Athènes, et puis après il est allé à Corinthe, il est resté à Corinthe un an et demi à peu près. Et c'est depuis Corinthe où il était, donc, il a écrit cette épître, cette lettre. Depuis Corinthe, on ne sait pas exactement si c'était à la fin de son séjour à Corinthe, donc un an et demi à peu près derrière, après cette visite à Thessalonique, ou peut-être c'était même au milieu ou à un certain moment de son séjour à Corinthe qu'il a écrit cette épître. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Parce que
les Thessaloniciens avaient trouvé le Seigneur, fait connaissance du Seigneur, avaient cru au Seigneur, et ce n'était pas très longtemps avant que l'apôtre ait écrit. Alors ça fait un an et demi au maximum, qu'ils étaient déjà, qu'ils se réunissaient, comme il est dit au début, comme l'assemblée à Thessalonique, l'assemblée des Thessaloniciens. Donc, ils étaient jeunes. Nous ne savons pas l'âge des différentes personnes. Peut-être qu'il y avait des personnes âgées, des personnes jeunes, mais dans la foi au Seigneur Jésus, ils étaient jeunes. Nous tous. Est-ce que quelqu'un parmi nous a aussi seulement, connaît le Seigneur seulement depuis un an? Oui, peut-être. Mais alors, nous le connaissons déjà depuis très longtemps, en général, en tout cas. Moi, par exemple, je sais que ça fait déjà des décades que je connais le Seigneur. Et parmi nous aussi, c'est la même chose. Est-ce que nous avons encore le même... Vous avez peut-être compris quand j'ai lu ça, est-ce que nous avons toujours encore le même enthousiasme? Vous me permettez ce mot-là, enthousiasme pour le Seigneur Jésus? Enthousiasme pour cette personne et tout ce qui concernait cette personne, tout ce qu'il savait maintenant de cette personne. N'est-ce pas malheureusement quelquefois que cela devient un peu moins vivant dans notre vie, mais espérons que ce sera le contraire, que vraiment notre vie de tous les jours soit une vie en communion avec le Seigneur. Et dès que nous avons une vie, menant une vie de communion avec le Seigneur, dès que c'est ainsi, c'est toujours aussi de l'enthousiasme qui doit nous régner pour cette grande personne. Nous avons chanté un cantique où c'était aussi le cas. Alors l'auteur de ce cantique, il a aussi pensé à ce que la parole nous dit, c'est que le Seigneur va venir, est-ce que nous serons tout près de lui et que le Seigneur viendra nous chercher. D'ailleurs aussi les Thessaloniciens en parlaient, n'est-ce pas? Et l'apôtre a dû parler, leur expliquer, leur présenter encore une vérité qu'ils ne connaissaient pas encore, la vérité du Seigneur, de ce que le Seigneur va enlever son Église, ses croyants, qu'il va venir lui-même pour les chercher et pour les introduire dans la maison du Père. Voilà, c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas encore su, et pourtant, il y avait cet amour, cette joie dans cette personne dont ils avaient pris connaissance. Oui, l'apôtre se présente ici, non pas, c'était en général comme cela que celui qui écrivait une lettre, il mettait d'abord alors la personne qui il était, qui écrivait, c'était normal. Mais l'apôtre avait écrit aussi souvent des épîtres où il avait donné encore quelques autres détails quant à sa personne. Par exemple, esclave de Jésus-Christ, ou bien apôtre et esclave de Jésus-Christ. Nous connaissons ces épîtres, mais ici nous ne trouvons pas ça. Mais tout simplement, Paul et Sylvain et Timothée à l'assemblée des Thessaloniciens. Seulement nous trois frères. C'était les frères qui étaient avec lui. Les frères qui avaient été aussi à Thessalonique, qui le connaissaient, ils avaient bien compris ou bien vu l'apôtre que c'était très bien qu'il y ait des témoins que les Thessaloniciens connaissaient aussi. C'est pas parce qu'il avait été avec Silas, avec Sylvain et Silas, là à Thessalonique. Et les Thessaloniciens avaient aussi non seulement vu et entendu ces trois personnes, mais ils avaient vu aussi leur attitude, ce qu'ils faisaient, comment ils vivaient, ce qui les occupait, quel était leur mode de vie. J'ose dire, vous comprenez quand je dis ça. Là, ils avaient vu tout ça. Donc, c'était trois témoins que l'apôtre met au début de cet épître. Et puis, ensuite, il dit, l'assemblée des Thessaloniciens en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Là, il souligne, pour ainsi dire, la liaison qui existait entre Dieu le Père. Et ce n'est pas seulement Dieu, c'est Dieu le Père. Ils avaient connu aussi Dieu le Père. Ils avaient pris connaissance. Nous connaissons aussi Dieu le Père. Chers amis, j'entends quelquefois que des frères, surtout dans la réunion de prière, prient au Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, et puis bon, on continue comme ça. Je connais même un frère dont je n'ai jamais entendu qu'il aurait prié publiquement dans l'assemblée à notre Dieu, notre Père. Okay. Ou à peu près comme cela, n'est-ce pas? Ça, c'est important qu'il y a encore aussi cette relation avec Dieu comme Père, que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes des enfants qui ont beaucoup de, que tout à fait confiance en Dieu le Père, mais qui sont rapprochés de ce grand Dieu d'éternité comme de notre Père. Alors ça s'est marqué aussi pour les Thessaloniciens et le Seigneur Jésus, parce que c'est lui par qui ils étaient devenus enfants de Dieu, comme nous aussi, bien sûr. Donc, déjà dans les quelques mots que nous trouvons là, il y a des vérités incluses et qui nous touchent, et que l'apôtre aussi les mentionne. Et puis, il leur souhaite grâce et paix à vous. Vous vous rappelez ce qu'on venait de lire dans les Actes, Actes 17. En Actes 17, nous avons vu aussi une situation très dangereuse pour les serviteurs du Seigneur. Il y avait même la populace qui était venue pour les chercher. Ils les ont persécutés, ils ont battu aussi. Ils ont fait toutes sortes de choses. Et l'apôtre Paul, comme Silas aussi connaissait cela déjà, ils avaient déjà été à Philippe avant, et ils avaient bien vu et ressenti, non seulement vu, mais dû ressentir dans leur corps aussi ce que ça signifiait d'être fidèle au Seigneur Jésus, que les autres, ces hommes-là, ne voulaient pas accepter, qu'ils rejetaient, et où il y avait même de la haine contre eux. Ceux qui suivaient cette grande personne. Et alors là, l'apôtre leur souhaite grâce. Vous avez besoin de grâce. Et nous trouvons ça dans les épîtres pratiquement chaque fois, n'est-ce pas? Pratiquement, nous trouvons grâce de la part du Dieu le Père, du Seigneur Jésus. Et bien sûr, normal, n'est-ce pas? Oui, c'est quelque chose qu'il faut dire. Eh bien non, c'est pas quelque chose qu'il faut dire. Vous me comprenez quand je dis ça, à la légère, comme ça. Non, 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 c'est jamais dit à la légère. C'est la parole de Dieu. Donc, c'est sérieux, tout à fait sérieux, avec un sérieux clair. Grâce et paix à vous. Nous avons besoin de grâce. Et cela chaque jour, à chaque moment. Et toi et moi, chacun de nous. Et paix. Bien la paix, je viens à cette expression justement parce que l'un des Thessaloniciens a dû voir, oh là là, est-ce que c'est de la paix qui est apportée ici? Est-ce que c'est la paix que ces deux personnes veulent apporter? Eh bien, extérieurement, pour eux, ce n'était pas une situation paisible pour Paul et pour Silas, Sylvain et Timothée. Ce n'était pas paisible du tout. Et pourtant, la paix était là. Nous allons encore voir quelle paix résidait dans les cœurs de ces croyants, de ces serviteurs du Seigneur. Et cela, c'est exactement cela que l'apôtre leur souhaitait à eux aussi. À vous, paix, grâce et paix à vous. Et puis, il y a trois choses que l'apôtre fait maintenant pour les Thessaloniciens.
très souvent, nous trouvons cela, qu'il prie d'abord. Et quand il mentionne cela dans ses épîtres, comme ici, cela nous montre l'importance de cette prière. Tout de suite, quand il parle à ses croyants, il faut la prière. Il faut que je leur dise que je suis là aussi dans la prière pour eux. Et l'apôtre Lévi ici, nous rendons toujours grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous souvenant sans cesse de votre œuvre de foi, etc. D'abord, trois sortes. Nous rendons grâce. Nous rendons toujours grâce à Dieu pour vous. Reconnaissance. Profonde reconnaissance. Reconnaissance de ce que c'était des personnes qui avaient écouté, qui avaient reçu la parole que l'apôtre devait leur présenter. Quelle joie! Une joie aussi, c'est une joie aussi personnelle que l'apôtre Paul. Il se réjouissait quand la parole de Dieu arrivait à son but, c'est-à-dire à entrer dans les cœurs de ceux qui écoutaient, et que c'était vraiment une raison de reconnaissance. Et d'ailleurs, le Seigneur a aussi donné cette reconnaissance, cette expérience de voir qu'il y a des personnes, il y a celui-là et celui-là qui se sont convertis, comme il est dit à la fin de ce chapitre, très beau d'ailleurs. Alors, aussi le Seigneur lui donnait cette joie et pour qu'il puisse être reconnaissant et pour qu'il soit aussi encouragé dans son travail pour le Seigneur. Le Seigneur le donne aussi quelquefois aujourd'hui. Quelle joie pour une mère quand les enfants trouvent le Seigneur. Quelle joie pour le père également. Quelle joie pour un frère quand il voit, il m'a écouté, il a compris quelque chose. Alors, c'est une joie aussi pour celui qui a prêché ou bien qui a raconté du Seigneur Jésus comme une mère, par exemple, qui a présenté au cœur des enfants cette personne, le grand pasteur, le grand berger. Voilà quelle joie aussi quand il peut voir que des personnes reçoivent ce qu'il a été dit. C'est la première chose. La deuxième chose, il faisait mention d'eux dans ses prières. C'est-à-dire, il les nommait dans les prières. Dans les prières, ce sont des prières, comment est-ce qu'on dit, pour quelqu'un. Il y a aussi une expression spéciale peut-être pour cela. En allemand, nous avons une expression pour prier pour celui-là et pour celui-là.
Intercession,
oui, c'est aussi intercession pour des personnes. Fürbitte en allemand, si quelqu'un connaît l'allemand. Oui, alors ça c'est aussi, c'est la deuxième façon. Il y avait d'abord la joie qu'il avait pour eux-mêmes, et maintenant encore la prière, l'intercession pour ces personnes qu'il nommait, faire mention, ça veut dire qu'il les a nommées. Est-ce que nous nommons toujours aussi ces personnes? Je sais que c'est... Nous le disons quelquefois, et c'est vrai, à quelqu'un, je pense à toi. Peut-être on dit simplement je pense à toi, mais le frère comprend dans la prière. Il pense à moi dans la prière. Oui, voilà, c'est exactement ça. C'est la deuxième chose de laquelle... l'apôtre peut parler. Et le troisième, c'est se souvenant sans cesse. C'est-à-dire, il pensait à eux, il se souvenait d'eux. C'est-à-dire, ses pensées allaient aussi vers ces personnes. Je me souviens de quelqu'un. C'est-à-dire, il y a des moments qui passent devant mon esprit où j'ai fait sa connaissance, où j'ai vu peut-être aussi sa foi,
où j'ai vu peut-être aussi une sorte de difficulté, mais de tout cela, alors je me souviens, et cela il le faisait sans cesse, c'est-à-dire je ne vous oublie pas. Et quand l'apôtre le dit, c'est très beau de voir, nous savons encore qu'il y a un qui n'oublie jamais quelqu'un. Je parle du Seigneur Jésus. Je parle du Seigneur qui oublie, n'oublie aucun des siens, à n'importe quel moment. Et même quand nous avons peut-être le sentiment d'être seuls, alors nous ne sommes pas seuls. C'est ce que j'aimerais bien dire aussi, parce que j'entends quelquefois, oui, quelqu'un se sent seul. Et pourquoi ? Il faut regarder au Seigneur. Et puis alors, on remarque qu'on n'est pas seul, que le Seigneur est toujours présent, connaît aussi et sent, on peut dire sent avec lui. Oui. Voilà. C'est très beau de voir comment l'apôtre pense à eux. Et maintenant, il se souvient encore de trois choses. Ce sont trois choses qu'on connaît et qu'on rencontre quelquefois dans l'Écriture. C'est-à-dire, d'abord, il se souvenait de votre œuvre de foi, de votre travail d'amour et de votre patience d'espérance de notre Seigneur Jésus-Christ. Trois choses, nous connaissons la foi, l'amour, l'espérance. Ce sont les trois critères que nous trouvons, un critère absolument clair pour le christianisme, pour un vrai chrétien. Il connaît ça. Premièrement, bien sûr, la foi. Parce que la foi lui a donné, par la foi, il a tout reçu. Et l'amour qui est versé dans le cœur et qui fait son travail et que nous devons laisser faire son travail, c'est l'amour. On dit quelquefois, vous comprenez sans ça aussi dans l'épître, la première épître en Apocalypse 2 à Éphèse, là il parlait de ces trois choses aussi, foi, amour et espérance, mais ce qui manque là, c'est les substantifs œuvre de foi, travail d'amour, patience d'espérance. Ce sont des expressions de ce que ces trois choses sont vivants dans la vie de ces jeunes croyants. Nous pouvons le demander. Parce que quand nous lisons quelque chose comme ça dans l'écriture de quelques personnes qui ont connu le Seigneur et qui ont commencé une vie avec, ils sont peut-être aussi, comme il est dit d'ailleurs après, sont peut-être aussi un exemple à imiter. Et quand il est dit « faisant mention de vous dans nos prières, etc. », il se termine avec l'expression « devant notre Dieu et Père ». C'est devant lui que nous faisons mention. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement, j'en parle un peu, mais c'est la conscience de ce qu'on le dit, l'apôtre le disait, devant Dieu le Père. C'est aussi une sorte de preuve que c'est vrai, que c'est absolument vrai. Sachant, frères aimés de Dieu, votre élection. Sachant. Le verbe qui est employé ici dans la langue grecque, c'est un verbe qui ne parle pas de ce qu'on connaît et sait intellectuellement, mais le verbe parle de ce que l'on sait parce qu'on a vu, parce qu'on a fait expérience de quelque chose. Et ça, c'est très bien de voir ici, parce qu'ils avaient devant eux la vie et le service, etc., de Paul et de Silas. Et c'est pour cela que l'apôtre dit, nous savons. Et aussi, il avait vu aussi chez eux. Attends, pardon, excusez-moi. Ici, c'est plutôt ce côté-là que lui, l'apôtre, avait vu dans ses croyants de Thessalonique qu'ils étaient vraiment des enfants de Dieu qui étaient élus par Dieu. Élection, nous connaissons l'élection éternelle, n'est-ce pas? L'élection de la grâce qui nous a aussi, et qui est aussi notre part, par grâce uniquement, nous le savons, c'est que c'est dès avant la fondation du monde, Dieu nous a déjà élus en Christ. Alors quelque chose qui était dans la connaissance, non seulement dans la connaissance de Dieu, c'était déjà son propos éternel. Alors c'était élection. Là, l'élection ici était quelque chose que l'apôtre pouvait voir dans le comportement, dans la vie de ces jeunes croyants. Ce sont des personnes élues. Je vois qu'il y a vraiment l'Esprit de Dieu qui a travaillé en eux. Et puis il décrit cela encore, et avec cela il encourage bien sûr aussi ces Thessaloniciens. N'est-ce pas quelque chose de très beau, très encourageant, disons plutôt, si quelqu'un nous dit, ah tu sais, tu as aussi la parole, et je vois que c'est vraiment quelque chose qui est vrai. Qui est absolument vrai que tu l'as reçu, cette parole. Il dit ici, notre évangile n'est pas venu à vous en parole seulement, ce n'est pas seulement parce que j'ai parlé en parole, ici ce n'est pas la parole de Dieu qui est en vue, c'est plus tard bien sûr, c'est devait aussi être aussi la parole de Dieu, mais ce n'est pas seulement en parole. Ce n'était pas seulement dit, ce n'est pas seulement ce que vous avez entendu avec vos oreilles, mais cela avait beaucoup plus de puissance, plus d'énergie. Il y avait une énergie dedans, mais aussi en puissance et dans l'Esprit Saint. Voilà ce qui était important. C'est ainsi que l'Évangile est apparu chez vous. L'Esprit Saint vous a présenté l'Évangile. Et troisièmement encore, une grande plénitude d'assurance. Eh bien, il parle bien sûr aussi là de ce qu'il a dû faire, de ce qu'il a pu faire, c'est-à-dire présenté par l'Esprit Saint et dans cette puissance que Dieu lui donnait, et aussi cette assurance qu'il avait que c'était vraiment la vérité qu'ils devaient leur présenter. Et ils avaient cru cela, ils avaient reçu cela. Et l'apôtre l'a dit, et cela le rend heureux d'ailleurs. Ainsi que vous savez que nous avons été parmi vous pour l'amour de vous. Et quand il est parlé de puissance et aussi d'esprit, de l'Esprit Saint, il y a encore ce qui est maintenant, ce qui était visible en lui et dans ses collaborateurs. Les Thessaloniciens avaient vu l'apôtre, avaient vu que c'était vraiment de conviction, sainte conviction, qu'il avait parlé. Et par l'amour, pour l'amour de vous. Nous avons eu déjà un peu avant cette expression aimé, frère aimé de Dieu. Au verset 4, frère aimé de Dieu. Dieu les aimait. Il disait, bon, quand il y a comme ça des frères, c'est-à-dire des personnes qui ont reçu l'Évangile, qui sont devenus des frères, parce que les seigneurs les appellent ainsi, c'est pour ça d'ailleurs aussi nous appelons frères, non pas parce que ça nous plaît,
Mais parce que le Seigneur a fait de nous, il nous a élus par grâce. C'est ainsi que nous sommes devenus des frères. Les frères et les sœurs, bien sûr, nous comprenons que le beau frère veut dire les deux, les frères et les sœurs, bien sûr, ceux qui croient au Seigneur Jésus, qui sont là avec lui, pour lui. Et alors ici, c'est donc aussi ce que l'apôtre fait pour amour pour vous. C'est ce même amour, cet amour de Dieu, l'apôtre l'avait aussi pour les Thessaloniciens. Il souligne cela un peu. Vous savez, je vous aime. Je vous aime parce que vous êtes mes frères. Je vous aime parce que le Seigneur vous aime. Je vous aime aussi parce que vous aimez le Seigneur. Mes chers amis, c'est la même chose aujourd'hui. Et quand il c'est la question pour amour, pour l'amour de vous, nous pouvons peut-être aussi une question. Est-ce que nous faisons ça et ça peut-être pour l'amour de nos frères, de nos sœurs? Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que nous le faisons parce que celui-là, il me plaît, il est sympathique, et bon, ça va, avec lui, oui, d'accord, mais avec l'autre, le Seigneur voit exactement quels sont les vrais motifs que nous avons. Est-ce que c'est cet amour-là que Dieu a versé dans nos cœurs, qui nous fait agir, et qui pour l'amour de mon frère, peut aussi supporter ceci ou cela. Nous devons nous supporter l'un l'autre, nous le savons bien. Il y a aussi des choses qui sont peut-être difficiles à supporter chez moi. Peut-être j'ai une sorte d'agir, une sorte de parler, une sorte de me produire, vous comprenez, qui ne peut pas plaire à tout le monde. Il y a peut-être quelqu'un qui dit oh là là, oui. Alors, l'amour supporte quand même. Même un frère qui n'est pas tellement agréable, parce que ce n'est pas là le critère pour l'amour, que quelqu'un est agréable, quelqu'un est doux, ou quelqu'un est, me plaît, ou me semble sympathique. Non, le critère c'est un autre, nous le voyons ici. Et puis nous avons de nouveau trois choses. Et vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur ayant reçu la parole accompagnée de grandes tribulations avec la joie de l'Esprit. Vous êtes devenus nos imitateurs. Et oui, oui, ils étaient imitateurs parce qu'eux aussi ils participaient maintenant à la tribulation, à tout ce que l'apôtre Paul avait vécu, avait reçu quand il était à Thessalonique ou à Philippe, parce que certainement l'apôtre leur avait aussi parlé de Philippe, et il y avait aussi une liaison entre les différentes villes, on le sait. Par exemple, après, quand l'apôtre est allé à Béré, alors les Thessaloniciens, plusieurs sont venus pour le persécuter là aussi, et les Bériens étaient heureusement plus... Plus noble, parce qu'ils ont lu d'abord la parole pour voir est-ce que c'est vrai. Alors cet homme-là, il nous présente quelque chose de bon, de bien, de vrai, parce qu'il se base sur l'Écriture telle qu'elle existait déjà, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Et alors, ils avaient aussi part à la tribulation. Et ils étaient comme ça aussi, ainsi aussi des imitateurs de l'apôtre. Ils étaient prêts à aussi souffrir. Vous vous rappelez, en acte 17, nous avons vu aussi, quand il est parlé du Seigneur, que le Seigneur a souffert. C'est très beau à voir, ce que nous venons de voir tout à l'heure. Le Seigneur a souffert. Et il a souffert aussi par toutes sortes de méchancetés des hommes qui l'entouraient. Comme cela peut arriver aussi pour des croyants dans d'autres pays, surtout chez nous, peut-être beaucoup moins, mais il y a aussi quelquefois la calomnie, il y a quelquefois la médisance,
Il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous faire du mal et qui peuvent nous faire souffrir. Et soumettre à quelqu'un des motifs mauvais, par exemple, qui fait ça seulement parce que, et puis alors une raison mauvaise. Ces paroles-là, on les connaît aussi, malheureusement. Ça existe. Mais eux aussi, ils avaient compris cela et ils avaient aussi souffert. Alors ils sont devenus des imitateurs de l'apôtre et de Christ. Parce que Christ, quand il s'agit de la question de souffrance, il est toujours celui qui a le plus, qui a eu le plus de souffrance. Les souffrances du Seigneur ne peuvent pas être égalées par n'importe qui. Parce que c'était aussi des souffrances que le Seigneur a eues dans une connaissance beaucoup plus profonde de tout ce qui était dans le cœur des hommes, de tout ce qui se passait aussi. Il pouvait voir ce qui se trouvait derrière, dans la tête des personnes, sans que quelque chose soit déjà visible pour d'autres. Mais lui, il le voyait et ça le faisait souffrir. Et ils étaient donc imitateurs de ceux de Seigneur, ayant reçu la parole accompagnée de grandes tribulations, avec joie, la joie de l'Esprit Saint. Eh bien, aussi dans les tribulations, il y a la joie. On connaît cela peut-être moins, mais ça existe quand même. Je connais une fille, jeune fille, qui est dans la classe où elle était, a souffert parce qu'on la calomniait, on disait du mal d'elle, etc., on riait d'elle, etc. Et elle a dit quand même, et pourtant, non, je ne vais pas faire ça, parce que cela ne plaît pas à mon Seigneur. J'appartiens au Seigneur Jésus, ce qu'elle a ouvertement confessé. Alors, ils ont encore plus davantage. Mais après, elle savait bien, et c'est un sentiment qu'elle a eu vraiment de joie. J'ai pu être un témoin, donner un témoignage de mon Seigneur. Certainement, l'Esprit Saint leur a donné aussi cette joie. De savoir qu'elle avait été fidèle. Disons cela tout simplement comme cela. La fidélité, malgré peut-être les accusations, et cela, recevoir aussi avec la joie de l'Esprit Saint. Être quelque chose pour le Seigneur. L'Esprit Saint peut nous faire ressentir aussi cela. Oui. Et alors ils étaient donc des imitateurs et ils étaient devenus encore davantage, au verset 7, ils étaient devenus des modèles pour tous ceux qui croient dans la Macédoine et dans la Carie. Ah, c'est-à-dire imitateurs d'abord et maintenant devenir un modèle pour d'autres. Voilà quelque chose de très précieux. Quand le Seigneur nous permet d'être un modèle, cherchant à être vraiment fidèle envers lui, être fidèle à la foi, être fidèle à notre appellation, notre appel céleste. Nous sommes appelés aussi à être des personnes qui sont là pour l'Évangile, de connaissance des différents appels qui existent. Et troisième point, car la parole du Seigneur retentit de chez vous, non seulement dans la Macédoine et dans la Carie, était donc aussi racontée. Donc ils étaient aussi des témoins. Trois choses. Imitateur, modèle, témoin. Être témoin pour le Seigneur. Chose très précieuse. Attitude et espérons une réalité heureuse, précieuse aussi dans notre vie.
dans notre vie de tous les jours d'ailleurs, non seulement sur le banc de l'Assemblée, ou bien dans le cadre des amis, mais aussi devant les autres, parce que c'était dans toute la Macédoine, et nous pouvons être sûrs que ce n'étaient pas tous des croyants. Alors ils parlaient même de lui, oh là là, ce sont des personnes, est-ce que tu les as vues? Il parle d'un certain Jésus, et c'était aussi un témoignage qu'ils rendaient par leur attitude et par cette fidélité au Seigneur. C'est en tout lieu cela a été répandu. Votre foi envers Dieu s'est répandue, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en rien dire. Car ils eux-mêmes racontent de nous quelle entrée nous avons eue auprès de vous. Il dit, les gens de la Macédoine et de l'Achaïe, ils disaient, oui, vous avez entendu, il y avait certes trois hommes étaient venus. L'un s'appelait Paul, l'autre s'appelait Sylvain et le troisième s'appelait Timothée. Alors ces trois hommes-là ont une telle influence, est-ce que les gens pensent, une telle influence sur beaucoup de personnes. Alors là, vraiment, ils ont cru, ils ont suivi et ils étaient convaincus de ce que ces trois personnes disaient. Nous l'avons vu. Et d'autre part, comment vous vous êtes tourné des idoles vers Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. Alors encore une fois, trois détails qu'ils ont mentionnés. Premier détail. Nous avons vu, ce sont des personnes qui étaient des idolâtres, qui avaient servi des idoles, comme nous tous. Ils n'en font plus. Et alors, ceux qui avaient un peu vu, un peu compris ce que c'était, pouvaient aussi dire ils avaient quitté les idoles pour servir, ils se sont tournés des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Ils n'ont plus servi les idoles. Les idoles, c'est-à-dire, bon, nous savons ce que c'est dans l'époque en Grèce, n'est-ce pas ? Et servir Dieu, c'était juste le contraire. Et troisième point encore, pour attendre des cieux son Fils. Mes chers amis, est-ce que c'est pour nous vrai aussi ? Est-ce que nous sommes, je prends le mot exact qu'il a, nous sommes tournés des idoles vers Dieu ? Ah, nous n'avons jamais eu des idoles, n'est-ce pas ? Si, il y avait des idoles, dans un sens plus général. Les idoles, c'est tout ce qui prend la place de Dieu, la place du Seigneur. Et nous avons servi bien des choses qui prenaient la place dans nos cœurs, prenaient la place qui maintenant appartient au Seigneur. Donc nous sommes tournés des idoles. Et n'oublions pas que nous avons fait cela. Les idoles, pour nous, c'est autre chose peut-être, c'est le monde, c'est toutes les attractions du monde, toutes ces choses que l'homme naturel cherche, tout ça, et tout le mal qui est lié à tout cela, nous sommes détournés de cela. Mais n'oublions pas que nous nous sommes détournés de cela, que cela reste aussi vrai dans notre vie. Nous ne pouvons pas nous représenter qu'un croyant de Thessalonique aurait dit, ah oui, alors maintenant, alors, je vais encore au temple des idoles, et je fais encore quelque chose. Oh oui, c'était pas si mal que ça. Non. Il ne fera certainement pas. Ça, c'était clair. C'était vraiment détourné. C'était
une décision absolue. Et ça doit être aussi une décision absolue pour nous, quant aux idoles qui peuvent aussi prendre notre cœur, prendre la place du Seigneur. Parce que le Seigneur ne prend, comme disait un frère, ne prend jamais la deuxième place. Le Seigneur ne prend pas la deuxième place. Le Seigneur veut la première place. Et le Seigneur veut, c'est une autre sorte de le dire, il veut la place dans le cœur. Voilà. Donc, détourner des idoles, c'est aussi quelque chose de très pratique. Vrai certainement chez les Thessaloniciens, vrai, espérons-le aussi pour chacun de nous. Et servir Dieu, c'est ce qu'il faisait. Nous servons Dieu, parce que nous savons que le Seigneur nous a donné aussi un service. Moi, je ne connais pas le service de mon frère, mais mon frère doit le connaître. Il peut le connaître. Il peut demander au Seigneur, quel est le service que tu me donnes? Et le Seigneur peut aussi, croyons bien, que le Seigneur peut nous montrer aussi, voilà ce que j'ai pour toi. Voilà le chemin, voilà un travail où tu peux m'honorer, un travail que tu peux faire pour moi, servir le Seigneur. Et troisième point, attendre son Fils, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, attendre le Seigneur Jésus des cieux. Et cela lie notre cœur avec le Seigneur, lie notre cœur avec le ciel. Et ainsi nous pouvons chanter aussi un cantique comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Que vraiment nos cœurs soient liés au ciel, se réjouissent vraiment de ce grand moment, la joie de ce grand moment quand le Seigneur viendra. Notre Sauveur, notre Seigneur, que nous aimons, qu'il viendra, que nous le verrons pour la première fois, et à toujours. Et nous pouvons alors lui apporter aussi une vraie adoration. Attendre son Fils des cieux. Et ça se termine. Qui nous délivre de la colère qui vient. C'était encore un dernier. Oui, un dernier point. N'oubliez pas, sinon, ça serait aussi votre cas qui nous délivre de la colère qui vient. Ça nous rend reconnaissant, ça nous montre aussi qu'il n'y a rien en nous. Aucun d'entre nous a pu se sauver lui-même de cette colère qui vient. Parce que nous étions tous sous la même colère. Mais qui nous délivre, c'est ce Dieu d'amour dans la personne du Seigneur Jésus. Qui nous délivre de la colère qui vient. Voilà ce que l'apôtre met encore à la fin. Vous savez ça, la colère va venir. Je vais vous en parler aussi dans cet épître. Il y a encore dans cet épître quelques vérités qu'il doit leur présenter. Et là, par exemple, aussi cette colère qui va venir sur un monde coupable, un monde incrédule, un monde qui ne veut pas de Dieu, qui ne veut pas du Seigneur. Alors, vous, mes chers Thessaloniciens, vous êtes délivrés de cette colère qui vient. Et cela est un motif énorme et fort pour vraiment être attaché de tout notre cœur à cette personne, à notre Sauveur, à notre Seigneur, à celui qui nous aime et qui vient bientôt, que nous pouvons attendre des cieux. Chaque moment, il peut venir. Quel bonheur sera ça.
Adore notre amour.